Ça va, c'est pas trop dur? Non, c'est bon? D'accord. Pardon? Jusque là? Ah, tu appréhendes, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, c'est la grande... comment on appelle ça? Ou foi, il y a le toboggan qui...
Le grand 8.
Le grand 8? Le grand 8. Oui, le grand 8.
Montagne russe, non?
Montagne russe, oui, ça s'appelle aussi comme ça, quand ça monte. Et puis, voilà. Où est-ce qu'on est sur cette montagne russe? Est-ce qu'on est en haut? Juste avant de plonger? Non. On ne va pas faire ça. C'est que... Effectivement, ce que nous... apparemment, Freud lui-même, il était très courageux. Il était extrêmement courageux parce qu'il est allé là pour découvrir un terrain que les autres n'avaient pas encore envie de découvrir ou n'avaient pas le courage de découvrir, c'est-à-dire l'ego. Il voulait absolument connaître l'ego dans tous ses aspects. Et il l'a découvert, il a traqué, il a chassé quasiment comme un détective. Comme un gendarme traque un criminel. Il a décrit, il a étudié, il a analysé, mais il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il avait encore ses propres peurs. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu que l'ego n'était qu'une défense. La totalité de l'ego n'était qu'une défense contre sa réalité. Mais sa réalité n'était pas sa personnalité, n'était pas l'individualité qu'il pensait être. Lui aussi, il était sous l'influence de l'ego, qui lui disait, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas voir ce qui est au-delà de l'ego. Donc, si ça vous arrive d'avoir des appréhensions, de commencer à ressentir que ce que nous faisons, ça tranche un petit peu trop vif, au cœur du sujet, ne soyez pas surpris, soyez indulgents avec vous-même, très patients, parce qu'une partie de nous se rend compte que nous approchons de la vérité, mais la vraie vérité, pas toutes les différentes nuances de vérité qui existent sur la planète, mais la vraie vérité. Parce que si nous avons une réalité, une vérité, cette réalité, cette vérité doit être palpable, elle doit être capable d'être captée. Et nous, ce que nous faisons, nous regardons systématiquement pourquoi nous ne faisons pas ça. Et à force de regarder systématiquement pourquoi nous le faisons pas, à un moment, nous n'avons plus de raison de ne pas faire. Nous n'avons plus d'armement, nous n'avons plus de défense. Nous ne voyons plus pourquoi ne pas faire. Nous ne voyons plus comment nous pouvons rester avec notre position. Parce que, à force, je vous enlève toutes ces positions, toutes ces défenses, toutes ces différentes façons que vous avez fabriquées pour rester dans l'ego, le défendre et dire « mais c'est normal que je ressens ça. C'est normal dans ce monde. » Je vous dis « c'est normal pour l'ego. C'est normal une fois qu'on s'est déplacé 3 cm à droite. » C'est normal dans le fausseté, c'est normal dans l'individualité, absolument. C'est normal dans un asile. Je dis un asile parce que une fois que nous avons quitté notre réalité dans notre parfaite conscience de la réalité, connaissance de la réalité, il y a une certaine loi qui gouverne la réalité, nous mettons dans cet endroit à côté de la réalité, qui est un endroit de chaos total, où les choses meurent. Dans la réalité, il n'y a rien qui meurt. Mais les gens qui hallucinent, qui souffrent de maladies psychiques, mentales, ils pensent des choses qui ne sont pas réelles. Ils se font des peurs. Nous sommes en train de nous faire des peurs pour les choses qui ne sont pas réelles. Vous êtes nombreux à avoir étudié l'immortalité de l'âme. Nous savons intellectuellement que l'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle, même si le cœur part. Le corps part. Ça ne nous empêche pas d'avoir peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est logique d'avoir peur pour quelque chose que nous ne sommes pas à la fin et le corps est quelque chose que nous sommes en réalité, l'âme, qui dure éternellement. Nous savons logiquement, ce n'est pas logique d'avoir peur, mais nous avons peur. Donc, nous sommes un peu fous. Nous sommes tous un peu fous d'avoir peur des choses qui ne devraient pas nous faire peur, de penser des choses un peu insensées. Combien de fois vous êtes levé le matin, vous êtes assis bien, et puis au fur et à mesure dans la matinée, il ne se passe rien de particulier, mais vous ressentez une tension, vous commencez à avoir peur. On ne peut pas dire logiquement qu'il y a une origine à ça, mais on est entré dans notre folie. Je vais dire ça au fur et à mesure que nous sommes tous un petit peu fous. Quand je me fâche avec le pare-brise, c'est que quelqu'un qui hallucine qui se fâche avec un pare-brise. Non mais, attends, comme si le pare-brise me l'a fait exprès. Je suis bricoleur. Si vous êtes bricoleur, vous vous êtes fait mal à un moment ou autre. D'accord? Avec un marteau, une tournevis ou autre chose. Est-ce que ça vous est arrivé de jurer à un marteau? Bah oui, mes pauvres marteaux, je veux dire, on est fou. C'est de la folie. D'accord? Moi, je me suis vu donner un coup de pied à un tas de bois parce qu'il ne voulait pas se mettre comme il faut. Mais je me suis déchargé, je me suis déversé une colère sur le bois. Tu vas prendre ça. Comme si le bois allait se défendre, dire hé, hé, oh, oh. Et moi, je suis pour rien. Encore. Ah. Des fois, j'ai fait pas mal de bâtiments, et des fois, je vous promets, j'avais l'impression que mes chantiers étaient contre moi. J'avais une journée qui était contre moi. Hein? Ben, vous avez d'autres occupations, d'autres jours, vous êtes sûr que vous vous êtes dit, j'aurais mieux fait de... C'est quasiment une devise maintenant. Hein? Mais est-ce que... D'accord, il se passe des choses peut-être désagréables dans la matinée, dans la journée, mais est-ce qu'on n'est pas un peu fou quand même d'arriver, de faire en sorte que ça nous fait sortir de nos gonds. Le fait est que le pare-brise, ceci, cela et tout ça, on réagit des fois d'une façon, mais qui est délirante, qui n'est pas cohérente et consistante avec la situation. Ce que nous allons voir de plus en plus pendant ce parcours avec cet atelier, c'est que toutes nos réactions sont délirantes. Toutes nos réactions par rapport à d'autres personnes.
C'est,
oui, nous sommes tous, c'est la paranoïa, nous sommes tous un peu paranoïaques. C'est ce que ça va nous aider à comprendre, c'est on va comprendre les paranoïaques. De plus en plus, on va comprendre d'où ça vient la paranoïa. Ça sera très très utile pour nous. Nous allons pouvoir comprendre pourquoi les gens ils ont peur. Même les gens, vous avez des gens dans vos familles ou qui sont vos proches ou vos collègues de travail, et c'est presque comme s'ils vivent dans un état d'anxiété ou de négativité. Vous allez pouvoir comprendre d'où ça vient. Et pourquoi c'est presque comme si c'est devenu un vêtement pour eux. Cette négativité, cette peur, c'est l'est. C'est parce que c'est l'est un vêtement. C'est le vêtement de l'ego, mais nous l'avons tous. Nous l'exprimons d'une façon différente, mais nous l'avons tous. Un petit exercice, parce que j'ai envie de faire ça. On est très cérébral, on est très mental, et on va faire quelque chose encore plus cérébral. Donc, allez, je vous demande de vous fermer les yeux. On va juste faire un petit exercice pendant 5 minutes. Je vais vous faire voyager d'une façon pas très traditionnelle. Oui. Vous allez voyager très loin. Fermez vos yeux. N'ayez pas peur. Vous allez entrer en contact avec votre vrai vous, votre essence. Vous commencez à l'approcher, vous descendez, vous commencez à constater la présence de quelque chose. Mais c'est inattendu, c'est étrange. Ça vous semble pas ce que vous avez prévu de rencontrer au fond de vous-même. Ça sent la vanille. Ça sent la vanille. Ça sent le lait dans la casserole qui chauffe légèrement. Ça sent un peu le sucré, mais c'est agréable. C'est doux. C'est un parfum doux. ça te rappelle de quelque chose, tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus, donc tu descends encore un peu plus pour essayer de t'enfoncer dedans, savoir ce que c'est au fond de toi là-bas. Soudain, ça devient mou, tu peux quasiment le toucher autour de toi. C'est mou, c'est un peu, c'est doux, absolument, tu peux enfoncer la main dedans, mais c'est un peu gluant même. C'est un peu gluant et tu es sûr que si tu t'en prends un bout de cette substance, que tu es sûr que ça sera sucré, effectivement, t'en prends un peu dans ta main, tu mets dans ta bouche et soudain tu sais ce que c'est. Tu es un chamallow. Marshmallow. Marshmallow. Tu es un chamallow. Oui, un peu tiède. Donc tout mou, fondant à souhait. C'est ta réalité. Enfin, découvert. Tu prends un autre bout. Tu goûtes, oui, cette saveur de ton enfance. Sucré, délicieux, tous ces souvenirs du passé. Tu prends encore un peu. Puis tu dis, oui, c'est bien, j'aime bien le chamallow. Et tu prends encore un peu, tu dis, ça commence à faire, ça commence à être déjà un peu, j'ai goûté à cette chamallow que je suis. Et tu commences à te poser des questions, est-ce que c'est tout ce que je suis? Est-ce que je suis juste ce chamallow doux et mou, un peu gluant? Et c'est à ce moment-là que tu commences à prendre conscience d'autre chose qui doit être là, enfouie au fond de ton chamallow intérieur. Oui, il y a autre chose. Et dans cette substance blanche autour de toi, tu commences à apercevoir une certaine luminosité qui brille au fond de ton chamallow. Tu l'approches, effectivement, il y a une sorte de luminosité qui brille au fond de ton chamallow. C'est quoi? C'est une perle, c'est juste une lumière. Tu écartes le chamallow et tu apercevoir un magnifique diamant. Un diamant caché au fond de toi. Qui l'aurait dit? Et pour penser que c'était là tout ce temps-là et tu ne le voyais pas à cause de ces couches de chamallow, de substances gluantes et blanches autour de cette magnifique pierre précieuse qui brille avec cette espèce de force et de feu intérieur. Et donc, petit à petit, tu sais que ton chemin consiste à sortir ce diamant de cette carapace de chamallow. Alors, tu mets tes mains autour. Ce n'est pas chaud, mais ça brille. Et tu commences à le tirer vers l'extérieur. Et tu tires, mais le chamallow, en fait, est résistante. Ça t'empêche, ça te colle. Donc le chamallow qui était avant une substance délicieuse et une gourmandise que tu prenais plaisir à déguster, maintenant il commence à t'empêcher à sortir ton feu intérieur, à vraiment briller avec toute ta force. Et donc tu es obligé à un moment d'abandonner et tu laisses ton diamant à l'intérieur. Et tu faufiles vers l'extérieur de ton chamallow pour enfin te mettre à l'extérieur et regarder l'ensemble de ton essence, ton cœur essentiel, ce qui est ce chamallow avec son diamant à l'intérieur. Et à ce moment-là, que l'animateur te dit d'ouvrir les yeux. Voilà, cet petit exercice, c'est juste pour vous aider à savoir que l'ego n'est pas plus qu'un chamallow. D'accord? C'est juste une substance qui nous semble sucrée, délicieuse, quelque chose qu'on veut déguster encore et encore, mais si on en prend trop, il nous rend malade. À force, si on déguste trop, il nous rend malade. Et en plus, c'est ce qui est le glue, c'est la substance gluante autour de notre vérité. Et si on a du mal à sortir notre réalité, c'est parce que c'est recouvert de ces couches de rien d'autre que du chamallow d'ego. Ce n'est pas un ego méchant, c'est juste un ego qu'on a souhaité qu'il soit là parce qu'on pensait qu'il nous donnait quelque chose de vraiment bien et de délicieux. Donc, il ne faut surtout pas avoir un problème avec l'ego. Petit à petit, nous allons apprendre à sortir notre diamant du fond de notre chamallow intérieur, de le polir, d'enlever couche après couche de chamallow. Et c'est tout ce que nous allons faire avec ces exercices. D'accord ? Il n'y a rien à craindre à sortir son diamant du chamallow. Ok ? Donc, maintenant, nous allons faire nous allons parler des quatre lois de l'ego pour les relations. Encore, c'est une synthèse de beaucoup d'informations qui sont dans nos cours. Et c'est parce que j'essaie de vous donner le cours dans une forme générique, si vous voulez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne... Soit vous n'étudiez pas spécifiquement ce document, ou quand même il vous pose certaines difficultés de lecture, ce que je comprends très bien. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant est inclus d'une façon ou d'une autre dans le cours, mais à beaucoup de différents endroits. C'est aussi une synthèse du travail de mon professeur, Kenneth Wapnick, et vous pouvez trouver ces mêmes informations, d'une façon ou d'une autre, dans ces livres qui sont dont j'ai un exemplaire ici sur la table. Je n'ai pas de livres en vente. Vous pouvez juste noter les références et les prendre et les acheter. Le plus facile, simplement, c'est d'aller soit dans votre librairie ou de les commander sur Amazon. Donc, ce que nous allons faire maintenant pendant une heure, c'est discuter brièvement juste de ces lois de l'ego, parce que c'est ces lois qui gèrent notre dynamique de relation sans qu'on le sache. Nous allons nous référer à ça encore et encore quand on fait ces exercices de pardon, parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. C'est ça. Nous voulons savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font. Nous aussi. Mais les gens que nous allons pardonner, les gens qui nous contrarient, ils font ce qu'ils font pour une raison. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont débiles. D'accord ? Malgré tout ce que vous pensez. Ou parce qu'ils sont méchants. Nous avons tous nos raisons pour expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc voilà, première loi, c'est la loi de la fausse pénurie. Vous pouvez appeler ça, si vous voulez, la pénurie. Le cours l'appelle le principe du manque. Moi, je l'appelle la fausse pénurie. Scarcity principle in the course, it's called the scarcity principle. It is the that something is lacking, that we're missing something. Yeah, that we're missing something. Yeah, qu'il nous manque quelque chose. L'idée, c'est simplement qu'il nous manque quelque chose. Alors, j'ai des informations là pour vous, donc vous n'avez pas besoin de les noter. Je vais vous donner ça tout à l'heure. L'idée ici avec cette loi, c'est que à l'instant que nous nous sommes déplacés 3 cm en dehors de la totalité, de la perfection, nous avons forcément abandonné une réalité complète. Dans notre réalité, nous sommes complets. Nous sommes une totalité qui est manquante de rien en nous. Le fait de vouloir avoir une expérience autre que la totalité, de vouloir nous séparer de ça, forcément, nous avons abandonné cet état d'absolu de complétude. Ça veut dire que nous sommes manquants. Nous allons ressentir un manque. Quelque chose nous manque maintenant. Notre réalité nous manque. L'expérience de ça dans cette vie ici, c'est que j'ai toujours besoin de quelque chose. Il me faut toujours quelque chose. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui manque dans ma vie ici. Parce que j'ai perdu mon identité qui m'offrirait tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin. Mais j'ai dit non, je ne fais pas demi-tour, j'ai pris mon choix, j'ai fait mon choix, je laisse la totalité tranquille derrière moi, 70 mètres à droite. Maintenant, je m'assume comme un grand. Et maintenant, dans le manque, il me faut des choses. J'ai une liste de tous mes besoins qui ont évolué avec le temps. Je vois les besoins des uns, des autres et tout ça, et j'ai mes besoins aussi. Quand nous entrons en relation avec des gens, c'est toujours en arrivant avec nos besoins. j'ai besoin peut-être dans un premier temps juste que l'autre, il me salue, qu'il me dit bonjour, qu'il me serre la main. Dans un commerce, j'ai l'habitude que quelqu'un me dit bonjour. Vous allez aux États-Unis, les gens ne vous disent pas forcément bonjour pareil. Ou dans un autre pays, ils n'ont pas l'habitude. Vous n'allez pas entendre le bonjour, au revoir. C'est curieux, mais ça fait, si vous avez voyagé, ça me fait ça. Chaque fois que je vais aux États-Unis, ils n'ont pas l'habitude. Je dis goodbye. Quand je quitte le magasin, ils me regardent. Mais c'est plus fort que moi. Je veux dire, j'ai besoin de dire au revoir. C'est juste la formalité qu'on fait. Et ça manque. Il me faut un certain temps d'adaptation là-bas. Et je vois, donc on arrive tous avec un certain bagage de besoins, des fois très anodins, des fois plus importants. Et donc, les besoins plus importants, bien sûr, c'est pour affection. C'est pour d'être écouté, de compter. C'est pour être reconnu, d'être signifiant pour quelqu'un, pour les autres, d'être respecté. Tout ça, ça a un sens pour nous. Dans notre réalité, rien de ça a un sens. Il n'a aucun besoin. On est rempli de sens et signification dans notre réalité. Il ne peut nous manquer de rien parce que nous avons reconnu que nous sommes la totalité, nous faisons partie de la totalité de tout ce qui est. C'est notre état naturel et notre état d'origine. C'est ce qui est devant nous, à 3 cm à droite, c'est pas très loin. Au lieu de faire ça, nous préférons essayer de nous débattre avec notre petite identité qui a beaucoup de besoins et qui manque de beaucoup de choses. Donc c'est la première loi qui gère les relations, c'est que chacun a besoin de quelque chose. Mais c'est des faux besoins. La raison, chacune de mes lois contient le mot faux. Parce que pour l'ego, ça semble tout sauf faux. Ça semble la réalité. Si je vous dis, chacun a ses besoins, vous dites, vous ne vous posez même pas une question. Bien sûr. En réalité, pas du tout. Personne n'a un vrai besoin. Le seul besoin qu'il a, c'est de reconnaître sa réalité. C'est de se déplacer 3 cm à droite pour reconnaître sa réalité. À cet instant-là, tout trouvera sa réponse et sa récompense. Nous avons besoin de si peu de choses en réalité. Si peu de choses. Mais dans la dualité, dans l'individualité, la séparation, nous sommes remplis de différents besoins qui vont de ce sourire, cette salutation de faim, jusqu'au café le matin, ou plein de différentes choses, jusqu'à vraiment reconnaissance avec son partenaire, d'existence, d'amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça c'était lundi, mais aujourd'hui c'est mardi. Est-ce que tu m'aimes? C'était ce matin et ce soir. Est-ce que tu m'aimes? Même si vous ne posez pas la question à haute voix à l'autre, peut-être vous le pensez. D'accord? Comment l'autre me considère? Est-ce que je suis reconnu? Comment il me voit? Comment les autres me voient? J'ai besoin d'existence parce que je manque d'un profond sentiment d'exister. Bien sûr, je me suis basculé en dehors de ma vraie réalité. C'est normal. À ce moment-là, je suis toujours à la recherche. J'ai besoin de reconnaissance de mon existence. Je vais exprimer ça de plein de différentes façons. Les sports de l'extrême. J'adore ça. L'adrénaline, mais je me sens vivant. Là, je cours, ou je vole, ou je plane, ou je plonge. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux faire plein de choses, mais... L'adrénaline, le danger, j'adore, je vis, j'ai l'impression de vivre. D'autres gens, c'est la culpabilité qui les fait vivre, de faire des bêtises. On a tous besoin de sentir la vie, mais la vie pour l'ego, c'est la peur, l'adrénaline, c'est l'extase, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est la dépression, c'est la tristesse, c'est tout ce qui ramène à son individualité. C'est mon expérience, à moi, personnellement. Personne ne peut comprendre ce que je vis. Tu ne peux pas comprendre. Non, non, non. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Je vois que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. L'ego adore ça. Il y a une expression en anglais qui est payback. C'est presque le sous-table. L'ego, sous forme de dépression et de tristesse ou de grand-peur ou d'anxiété, il nous donne l'impression que nous souffrons. D'accord ? Mais le payback, le sous-table de l'affaire, c'est qu'en fait, une partie de nous est réjouissante de cette expérience extrême. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de m'être défini. Enfin, je sais qui je suis. Je suis souffrant d'une déprime ou d'une dépression ou d'une tristesse. Je sais qui je suis. Des dangers, des difficultés me donnent presque une occasion de me plonger dans ce chamallow d'ego qui me fait ressentir qu'enfin j'ai pu me séparer de cette totalité autoritaire, de cette présence d'amour qui est trop grand à côté de moi, qui m'invite à chaque instant de juste le regagner doucement. Je dis, mais non, j'ai pas envie. Je suis triste. Je vis en dehors de l'amour. J'ai pu le faire, j'ai réussi. Sauf qu'il n'est jamais vraiment convaincu, donc il doit le revivre et revivre. À d'autres moments, c'est trop. Il se rend même compte lui-même qu'il est malheureux et vraiment, il n'en peut plus. Donc il se donne un peu de répit. Tu le vois une semaine plus tard, il a l'air tout a l'air d'aller assez bien. Il dit oui, c'est une bonne phase, ou ça va, ou aujourd'hui ça va. Et puis une semaine plus tard, c'est pas pareil. On est tous comme ça. C'est haut et c'est bas de basculement entre notre esprit juste, notre esprit faux, de nous approcher de la tranquillité, de nous éloigner de la tranquillité. La tranquillité toujours qui représente la magnifique présence d'amour qui est à côté de nous. La fausse pénurie. Donc tout est par rapport à moi et mes besoins. Ça va nous aider à comprendre pourquoi les autres font ce qu'ils font. Voilà. Et aussi nous-mêmes. Ça va vous plaire. La loi de la victime imaginaire. La loi de la victime imaginaire. D'accord. Nous connaissons tous le principe d'être victime. Nous poussons ça un petit peu plus loin. Nous définissons que seule la personne ou que seul l'être ou l'esprit qui s'est réuni avec sa réalité peut être vraiment bien. C'est le seul instant que nous sommes vraiment bien, c'est quand nous sommes dans notre réalité, quand nous rejoignons notre esprit avec la réalité, avec cette réalité non duelle parfaite. C'est seulement à ce moment-là que nous sommes profondément bien. Dès l'instant que je dis j'ai plus envie, je te quitte cette magnifique présence, je dois souffrir. Je suis souffrant. C'est ma séparation avec ma propre réalité qui m'est offerte par le ciel, par le plus haut. Ça nous est offert comme ça, gratuitement. Ça, là, je suis bien. À l'instant que j'ai dit non, je suis souffrant, par définition, forcément. C'est mon choix qui me fait souffrir. Je ne peux pas être dans un état d'individualité et d'être profondément bien. Je peux avoir des niveaux, des couches, mais je ne peux pas connaître la divinité pure, sauf si je ramène mon esprit vers la divinité pure, par définition. Donc, je suis souffrant, mais je suis toujours souffrant par mon propre choix de quitter cette présence qui est juste à 3 cm à droite. Dans ce cas-là, n'importe quel instant de la vie que je suis souffrant de quelque chose, d'une rhume, du marteau qui m'est tombé sur le pied, de ma voiture, d'une autre personne, de n'importe ce que c'est, je peux essayer de dire, bah oui, je suis souffrant, j'ai une rhume, je suis souffrant, j'ai ceci, cela qui se passe dans ma vie, j'ai plus d'argent. Je peux dire que je suis souffrant à cause de ça. Je peux même dire que je suis victime. Je suis victime de la bourse, je suis victime du temps, de la météo ce soir, je ne vais pas pouvoir entrer. Je suis victime que je suis dernier à la machine à café, il n'y avait plus de café, il n'y avait plus de pièces pour le... Je suis victime parce que je ressens une douleur. Une victime, par définition, il est souffrant, il ressent une douleur. Mais ce que nous essayons de comprendre ici en nous sortant du bocal, c'est que la vraie raison que nous ressentons une souffrance profonde, c'est parce que nous avons dit non merci à la présence de l'amour qui nous entoure et qui nous embrasse à chaque instant. C'est pour ça que nous sommes tous des fausses victimes, des victimes imaginaires, comme la malade imaginaire. Ça commence à moins 9 mois. Moins 9 mois. Oui. C'est-à-dire que la seule raison qu'une âme a de venir sur Terre, c'est de vivre la séparation. Sinon, un esprit ne quitte pas le ciel, sauf quelques esprits vraiment, vraiment particuliers qui viennent pour nous partager un message particulier. Mais ils ne sont pas très nombreux.
J'avais une question, Bernard, j'ai évoqué à Sarlat, mais c'est que si on refuse la réalité de l'amour, c'est peut-être que pourquoi ces âmes sont venues expérimenter ces frustrations, ces manques. Il me vient à l'esprit que peut-être, si nous étions tous dans cette réalité amour, je n'ai pas l'impression qu'on s'emmerderait un peu. Je fais la provocation volontairement. Hein. Parce que finalement, pourquoi on a quitté ce tout, cette unité parfaite, cet amour, cette lumière pour vivre effectivement des affres, on en a tous.
Mais, pourquoi on l'a fait?
Pourquoi on l'a fait?
D'accord.
C'est bien pour apprendre aussi des choses. Bien sûr que c'est douloureux, mais c'est aussi...
La question est pourquoi nous avons quitté l'amour? Voilà. Pourquoi nous avons quitté l'amour? Est-ce que ce n'est pas pour aussi apprendre des choses dans un état de séparation?
Et
c'est une question qui m'est posée aussi, qu'on me pose. Il y a différentes explications selon différentes spiritualités. C'est peut-être un petit peu difficile à... Écoutez, je vais vous donner ce que le cours dit par rapport à ça, mais vous pouvez garder votre perception de l'affaire, ça ne change rien du tout. La perception du cours, c'est qu'il n'y a aucune bonne raison de vouloir se séparer de l'amour. Il n'y en a aucune. D'accord? Il n'y a ni évolution, c'est-à-dire que une père qui crée une magnifique maison pour ses enfants, d'accord? À l'intérieur de la maison, elle s'y met tout ce qu'ils peuvent vouloir avoir, d'accord, pour éternité. Connaissance, sagesse, absolument tout dans un milieu resplendissant. À l'extérieur de la maison, il y a des crocodiles. D'accord? Des crocodiles. D'accord? Et des dragons et tout ça. Donc, est-ce que le père, il va dire aux enfants, tiens, allez faire un tour dehors. Hein? Va prendre un truc ou deux. Va prendre quelque chose. Non, le père ne dit pas ça. L'enfant qui dit, tiens papa, j'ai une bonne idée. Et si j'ai quitté cette baraque et j'allais faire un tour dehors. Le père dit, tu es vraiment sûr que tu veux faire ça? C'est vraiment pas une bonne idée. Je te promets, c'est vraiment pas une bonne idée. Si tu veux, je te laisse partir. Nous avons une réalité et elle est parfaite. Elle est magnifique. Nous n'avons pas eu une bonne raison de fabriquer cet univers. Ça, c'est l'une des choses les plus compliquées, les plus difficiles à accepter pour notre individualité. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous voulons garder une idée, nous voulons garder le concept qu'il a dû avoir une bonne idée de venir ici, quelque part. Il doit avoir une bonne raison. Cet univers doit avoir une bonne raison, quelque part, d'exister. Punaise, regarde ce qu'on a fait. 16 milliards d'années de travail, c'est pour rien.
D'ailleurs, si on suit ton raisonnement, une fois qu'on aura suivi tous les cours, et qu'on aura plus rien à faire ici. Donc, la fin de la histoire.
Patricia, je vais vous donner une nouvelle qui est encore plus effrayante. C'est pas le pire, ça, ma chérie. C'est pas l'idée qu'à la fin de cette série-là, vous n'aurez plus raison de rester sur Terre. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas ici. Déjà, nous ne sommes pas ici. Parce que, c'est l'autre réponse, nous avons notre autre réalité qui est toujours parfaitement sauvegardée pour nous. Nous sommes juste en train de jouer un jeu ici, avec des tout petites individualités ici, comme les petites poupées. C'est vraiment comme si, même nos enfants, d'accord, quand ils ont 3 ans, ils jouent avec des poupées. S'ils ont 6 ans, 7 ans, ils jouent encore avec les poupées, on va dire, oui, d'accord, ils jouent encore avec les poupées, je sais, 7 ans, oui. À 10 ans, 12 ans, ils jouent encore avec les poupées. On va commencer à se gratter la tête. D'accord ? À 15 ans, on va plutôt essayer d'ignorer. Mon fils, il fait son ordinateur. Il est en train de jouer avec ses poupées dans sa pièce. Punaise, à 23 ans, à 50 ans et tout ça, il est toujours en train de jouer avec ses poupées. On va dire, ah, il y a vraiment un problème. Pourquoi il ne veut pas grandir ? Pourquoi il ne veut pas juste assumer sa réalité ? C'est une identité magnifique d'adulte. Au lieu de jouer avec ces petits trucs là-bas, nous avons une autre identité en parallèle avec celle-ci. C'est tout. C'est la bonne nouvelle. C'est que nous n'avons rien à craindre. Parce que nous n'avons pas pu faire vraiment fabriquer ces trucs et les faire réels. C'est juste des visions, des images, c'est de plein de petits corps partout, plein de planètes, plein d'astéroïdes, plein d'univers et tout ça. Mais quand vous lisez les récits des gens qui ont expérimenté les NDE, les expériences de la mort imminente, ils disent near death experiences, les gens qui ont the people who have died and come back, ils disent tous que cette planète est tellement petite et cette réalité ici est tellement infime et ils disent ridicule par rapport à la réalité. C'est nous ici qui avons du mal à encaisser ça. Ce n'est pas eux qui ont un problème avec ça.
Oui, mais quand on a mort, on n'a pas réveillé du rêve. Parce que...
Non, c'est juste. Oui.
Et ça, c'est que j'ai compris maintenant que c'est ici qu'on peut réveiller.
Exactement.
Alors, quand ils sont là, pourquoi ils disent que c'est plus grand, etc., etc. Est-ce qu'ils ont un petit moment
Une autre expérience. Oui, c'est une très bonne question. Selon le cours, la mort n'offre aucun changement de la vie. Il n'y a absolument rien qui est résolu, il n'y a absolument rien qui change. C'est juste l'âme qui se transfère d'endroit. D'accord ? L'esprit qui se transfère d'endroit. Mais il n'y a pas de magnifique prise de conscience. D'accord ? Donc, et notre vrai travail de réveil, c'est ici. Il n'y a rien. Voilà, la mort ne révèle rien en particulier. Donc, l'expérience de ces gens nous laisse croire que peut-être la mort est une solution. Mais à mon avis, c'est ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils se sont permis une expérience de la réalité, mais une expérience que nous pouvons tous avoir sans mourir. Ici, notre objectif, et c'est pour ça qu'ils reviennent, c'est pour nous essayer de comprendre la réalité, que nous pouvons avoir ce genre d'expérience ici. C'est l'idée, c'est-à-dire de dépasser notre identification avec le corps. Quand ils meurent, ils dépassent ça pour leur propre raison, ils dépassent ça très vite, ils laissent leur corps, mais leur identité corporelle, et ils entrent en contact avec une autre sphère de connaissance. Mais l'idée, c'est que nous sommes largement capables de faire exactement ce travail en nous déplaçant 3 cm à droite vers notre réalité. C'est exactement ça. C'est la raison que j'en parle de ces NDE, c'est parce que personne ne va me croire si je vous dis c'est magnifique. D'accord ? Mais il y a des gens qui ont vécu ces expériences de mort imminente.
Je peux parler juste, je pense à l'instant, le film, qui est un film reportage Faux Départ, qui renseigne très bien les gens qui ont vécu des NDE, qui sont venus au Faux Départ. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez, ça donne le ressenti et la compréhension complète, parce que les témoignages sont édifiants. Hein. Les gens qui
sont
venus, ils ont eu du mal à revenir dans leur corps parce qu'ils se sentaient à l'étroit à l'intérieur.
C'est un très, très, très joli film, très bien fait.
Oui,
très bien fait. Oui. Faux départ sur les gens, justement, qui ont vécu ces expériences de la mort imminente. Très, très joli film. Je vous conseille aussi, si vous d'ailleurs, vous pouvez aller juste sur Google, j'imagine, et vous mettez faux départ. Sinon, l'association Météréalité.
Oui, et sinon, il y a quelqu'un aussi qui a fait une association pour les gens qui ont vécu des NDE sur Montpellier, qui s'appelle Nicole Cadiba. On fait des conférences, qui a vécu elle-même une NDE. Voilà, la
séance. D'accord.
C'est très riche d'enseignants et ça permet de bien comprendre ce qui se passe.
D'accord.
Nicole Cadiba, c'est un peu les gens. Français ou anglais? Vous ne voulez pas?
Pour français. Oui. Il y a aussi un livre qui va sortir en français bientôt de Dr. Eben Alexander, Dr. Alexander, sur son NDE, qui est un voyage remarquable, qui est un neurophysicien. Et donc, il connaît le cerveau très intimement. Il sait que ce qu'il a vécu n'a rien à voir avec le cerveau. Donc, c'est un très, très joli récit. C'est juste, je vous en parle juste pour que vous sachiez à quel point ce monde ici est vraiment petit par rapport à la réalité. C'est parce que nous sommes tellement ici, nous sommes tellement identifiés avec ce milieu, avec Figeac, le Sud-Ouest, le Lot, France, planète Terre, moi en tant qu'homme et tout ça, nous sommes tellement identifiés avec ça que inconsciemment nous en avons fait une grande histoire. Nous en faisons une grande histoire de cette planète, de ce pays, de l'économie, de plein de choses. Or, la réalité est complètement différente et n'a pas besoin de pays, d'économie, de planète. Oui, il ne faut pas le dire. Oui. Ah, oui. Vous avez besoin d'aller travailler. Vous avez besoin. Non, vous en. Oui, exactement. Non, c'est que ce qui est génial, c'est qu'en allant au travail maintenant, nous pouvons dire la réalité est tellement différente. La réalité est vraiment belle. La réalité est belle. Elle est complètement différente. La réalité est avec moi ici au travail. Deuxième chose, c'est très important. Vous n'allez pas.
C'est ne pas
les séparer. Voilà. La réalité est avec vous en allant travailler. Voilà. Même avec vos collègues, nous pouvons apprendre à voir vos collègues différemment. Votre travail qui vous ennuie ou qui vous stresse. Nous pouvons arriver à le voir différemment, à savoir qu'il y a une richesse énorme au fond de ce travail, au fond de ces collègues. Votre prison devient votre portail, votre passage pour passer 3 cm à droite. Et enfin, reprendre ce qui est à vous. Sortir de la prison. J'ai fait une conférence sur ça, peut-être. C'est sur le site, en tout cas, si j'ai fait ça. C'est quand nous constatons qu'effectivement, nous vivons notre vie comme une prison. Or, le cours nous apprend que, justement, ceux qui sont les barreaux de notre prison, ceux qui nous donnent l'impression de buter contre les barreaux, si c'est mon travail, mon patron, ma femme, mon mari, mes enfants et tout ça, soudain on commence à voir que ces barreaux-là qu'on a l'impression ont été mis là justement pour nous empêcher de vivre pleinement, c'est la façon par laquelle nous allons apprendre à vivre. C'est notre passage vers l'éternité, vers la vérité.
Et alors pourquoi on est venu alors sur ce monde?
Nous avons été intrigués par l'idée de vivre autre chose que la perfection. Nous avons été intrigués, nous sommes intrigués, nous pensons que nous pouvons, c'était la deuxième partie de la réponse à la question, c'est pourquoi nous venons. Posez-vous cette même question chaque fois que vous avez une opportunité de choisir la tranquillité à la place du stress. La prochaine fois que vous êtes stressé pour rien du tout, posez-vous la question, pourquoi je me suis stressé là quand il n'y a pas un vrai stress? D'accord, je serai en retard parce qu'il y a du gel sur le pare-brise, mais je peux aussi appeler la personne pour dire que je serai en retard, je n'ai pas besoin de me stresser, je peux enlever le stress là. Pourquoi les choses en moi est allé automatiquement en direction vers le stress, au lieu de juste se calmer et dire, j'ai un choix, je peux me mettre 3 cm à droite, régler des choses et faire en sorte que c'est calme. J'ai choisi le stress. Pourquoi j'ai choisi le stress? Il y a quelque chose en moi qui a l'impression de vivre à travers ce stress. Je vis moi-même. J'ai l'impression de vivre ma vie. Je suis embêté par un petit truc, d'accord, mais c'est ma vie qui est embêtée. Or, si je dis à ce truc-là, si je dis, je peux ressentir vraiment de la tranquillité ici maintenant, ça me met la puce à l'oreille qui dit, ça veut dire que je peux commencer à dire ça par rapport à plein de choses. Je peux dire ça maintenant par rapport peut-être à mes enfants, ou par rapport à mon travail, ma voiture, mon président et tout ça. Si je commence à dire, je peux être vraiment tranquille par rapport à toutes ces choses-là, ben, je ne serai plus la même personne. Je vais perdre un peu ma personnalité, mon caractère. Ce n'est pas comme ça que je suis. Je ne suis pas juste tranquille tout le temps. Donc, ce que j'essaie de vous faire voir, c'est qu'en fait, le moindre petit souci est emballé dans un ensemble de notre identité. Nous nous attachons à nos stress comme si ça forme partie de nos vêtements, d'un ensemble de choses. C'est imbriqué. Ben, je peux pas juste dire ça parce que voilà, ça veut dire que je peux être tranquille là, tranquille là, et tranquille là, et soudain le château de cartes va juste tomber et l'amour sera manifesté pour moi. Et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être perdu. Mais qui suis-je? Si l'amour est réel, c'est le fond de l'existence de toute chose, de toute relation. Qui suis-je? Je ne suis plus personne vraiment. Je ne suis plus personne vraiment si l'amour est vraiment, cette tranquillité est la fondation de chaque catastrophe, de chaque difficulté dans cette vie. Mais qui suis-je? Je suis personne vraiment dedans. Je suis personne individuel et séparé de l'ensemble. Donc, on s'est séparé de l'ensemble, de la totalité, parce que quelque chose nous intriguait, nous intéressait dans cette idée de vivre l'individualité, autre chose que la totalité, mais l'individualité se vit toujours à travers le stress, la remise en question, la fausse identité. La mission primordiale de l'ego, c'est de vouloir être séparé et être heureux en même temps. Il veut garder son sens d'être lui-même, son individualité, tout dans sa vie, mais il veut enfin être heureux. Mais c'est un compromis impossible. C'est une contradiction. Parce que l'ego, par définition, c'est notre souhait de quitter la perfection. Maintenant, dans une étape d'imperfection, d'individualité, j'exige d'être heureux. Or, j'ai dit, je ne veux plus la perfection, je veux l'imperfection, mais maintenant, rends-moi heureux. Ça revient à notre loi, à la première loi, la fausse pénurie. Rends-moi heureux. J'ai un besoin, maintenant, il faut que me le remplissiez. Mais en fait, ça, c'est un peu plus tard aussi. Parlons de ça. La troisième loi, loi de la fausse. Loi de la fausse perception. Donc nous avons fait loi de la fausse pénurie, loi de la victime imaginaire. Juste synthèse, victime imaginaire, parce que nous sommes des victimes de notre propre choix de nous séparer. Et ça, c'est pareil pour chacun. C'est très difficile à penser que tout le monde est vraiment une victime par son propre choix. de s'exclure de l'amour, de la présence de l'amour. D'accord ? Sur le niveau très, très, très profond. Il ne faut jamais accuser qui qu'il soit d'être une victime imaginaire. D'accord ? Ça, c'est purement pour vous, dans votre recherche, d'essayer de comprendre les choses sur un arrière-plan. D'ailleurs, je vous ai mis justement une petite avertissement en haut de cette page-là. J'ai dit, ces lois sont à réfléchir dans le cadre de votre vie, mais plus encore pour comprendre ce qui préoccupe les autres personnes dans votre entourage, d'accord ? En tout cas, il nous incombe de pratiquer l'injonction de Jésus que seulement celui qui n'a pas commis l'une de ses erreurs puisse juger les autres. Toujours. Toujours, toujours. Mais nous allons avoir vraiment du temps pour discuter de tout ça au fur et à mesure. La loi de la fausse perception, l'inversion de la loi de cause à effet. C'est nul autre que l'inversion de la loi de cause à effet. La loi de la fausse perception, c'est-à-dire que je me promène dans cette vie ici, c'est rattaché à la loi de la victime imaginaire, j'ai l'impression que les choses s'imposent sur moi. J'ai l'impression que je suis l'effet des causes extérieures. J'ai l'impression que tout le monde me fait des torts. Je suis une pauvre victime, je suis affecté par les choses. J'ai l'impression d'être des fois une éponge. On entend ça souvent. Je suis une éponge pour tout ce qui se passe autour de moi. Or, c'est moi qui m'est rendu comme ça. Je me rends dans le schéma de l'ego, je me rends susceptible et sensible par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Je me dépasse 3 cm à droite, tout coule. Tout peut faire exactement comme il veut, ça ne m'affecte en rien du tout. Je suis affecté par rien du tout une fois que je me déplace 3 cm à droite et je reconnais la totalité, l'éternité des choses, la qualité éternelle des choses. Rien, les choses ici peuvent être endommagées dans la forme, mon corps, on peut faire mal à mon corps, mais si je ne suis pas mon corps, personne ne m'a fait mal, en réalité. Donc là, il y a des choses à travailler, on va travailler sur ça aussi. J'ai encore quelques mots que j'ai notés par rapport à ça pour vous aider à comprendre ça. La dernière loi, c'est la loi de la fausse différence. Si je vous dis, nous sommes tous différents, tout le monde dit, oui, oui, oui. D'accord. Ouais. La plupart des gens, ils vont dire, oui. Maintenant, nous allons apprendre que c'est la loi de la fausse différence. Il n'y a pas de vraie différence entre nous. À un niveau superficiel, bien sûr, il y a des différences. Mais ce que nous allons comprendre, c'est que ces différences-là, de taille, de couleur de peau, d'âge, de sexe, de travail, d'éducation, de formation, d'enfance, ces différences-là ne sont pas importantes. Ce n'est pas des différences qui comptent. Pour l'ego, ça compte. Mais en réalité, ça ne compte pas. Il n'y a pas de vraie différence entre nous. Cette loi, croyez-moi, elle est très difficile à accepter. Unique dans le sens que différent, particulier. Oui, il n'y a rien de mal à le dire. Encore, il n'y a pas une question de crime ou de péché ou de tort ou quoi qu'il soit. C'est juste que ce n'est pas la réalité. La réalité des choses, c'est que nous avons tous une forme différente. D'accord, nous avons tous un timbre de voix différent. Mais la réalité de chacun, c'est que 3 cm à droite, il se trouve dans la perfection de sa réalité, de son esprit pur. 3 cm à gauche, il se trouve dans son esprit de confusion. Et c'est tout. Après, son esprit de confusion, son esprit de séparation, va prendre beaucoup de différentes formes. Alors, je pense qu'on compte 7 milliards de différentes formes actuellement, à peu près. 7 milliards de formes de la même chose. J'ai fait aussi j'ai parlé d'une soirée sur ces thèmes-là, un esprit avec 7 milliards de visages ou de portraits, ce qui est sur le site. C'est remarquable à réfléchir comme ça. Nous sommes un être un être avec 7 milliards de différents visages, mais d'accord, si mon petit doigt, j'ai un article sur ça. Si j'ai le grand doigt maintenant, c'est le majeur. S'il commence à affaiblir, avoir un problème, d'accord, les autres doigts, ils vont dire, t'as vu celui-là? T'as vu celui-là? Regarde-le, il est tout faiblichon. Oh, c'est ridicule, il est tout blanc. D'accord? Sauf qu'ils vont dire, mais comment on va manger maintenant? On ne va pas pouvoir manger. Redresse-toi, je fais ce que je peux, Il revient. D'accord? Les autres vont dire, tu n'as pas intérêt à nous laisser tomber, parce que la dernière fois, tu nous as fait ça, on a dû manger avec la bouche dans l'assiette pendant une semaine. D'accord? On n'a pas pu tenir la fourchette. Les doigts ont l'air d'être des êtres séparés. Or, en réalité, comme nous le savons tous, c'est une main. Mais tant que nous cachons ce qui nous unit, nous avons l'impression d'être des individus séparés. C'est comme si nous avons tous des racines qui partent à partir de nos pieds vers le centre de la terre, et là, il y a juste une grande vie. Et nous sommes tous les petits doigts de cette énorme vie. Nous ne pouvons pas adresser une autre personne sans adresser une partie de nous-mêmes. C'est impossible. Nous n'avons jamais fait, nous n'avons jamais adressé une autre personne sans que ça soit partie de nous. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est différent. Il n'y a pas de vraie différence entre nous. Nous allons voir ça sur... Au fur et à mesure, ces exercices vont nous aider à comprendre, parce que vous allez voir les gens qui vous contrarient, vous allez voir à quel point nous ressemblons ces gens-là qui nous contrarient, qui nous rendent la vie difficile comme deux gouttes d'eau, au point que nous ne pouvons pas nous différencier dans le fond. Mais il fait exactement comme moi. Moi, je me suis vu faire exactement comme ça, effectivement. C'est ce qui nous attend dans cette série d'ateliers. Donc, on a fait le tour vite fait de ces quatre lois des relations pour l'ego. Je tiens à faire un tour de ça parce qu'en fait, ça colore sa façon de faire les relations, de comprendre les autres et sa place ici dans le monde. Ça colore ses relations. C'est le fondement de sa perception dans la dualité de l'ego. C'est comme ça que nous approchons des autres avec tout ce bagage en nous, et les autres nous approchons aussi avec tout ce bagage en eux, sans le savoir. Eux, ils ont des besoins. Eux, ils pensent que les choses à l'extérieur peuvent leur faire mal. Eux, ils pensent être une victime. Nous le pensons tous. Ils pensent être différents. Ils ont des besoins, ceci, cela. Ils viennent à nous sans savoir que tout ça est absolument faux. D'accord ? Nous les approchons aussi sans savoir que tout ça c'est faux. Parce que notre réalité, il reste juste là à côté de nous, comme notre ombre. Nous proposons toujours une autre expérience entièrement différente de cette vie. C'est la promesse du cours. Ça nous offre une opportunité, comme d'autres spiritualités, de regagner notre connaissance de notre réalité. C'est ce qui nous attend, c'est ce que la réalité nous offre comme opportunité. Et voilà, je suis très, très heureux de vous accompagner sur ce chemin un petit peu, que nous puissions découvrir certaines choses ensemble. C'est l'heure de commencer à finir. Commencer à finir? Ah oui, effectivement. Ça se dit pas. We have to start finishing. Ah oui, exactement. En anglais, ça serait très drôle aussi.
Avec un commencement et une fin.
Et voilà, exactement. On doit penser à terminer. Ça, c'est peut-être plus juste. Pour ceux qui doivent partir vers 5 heures, on approche l'heure.